Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du nouveau SUV Citroën C3 Cross et ses 7 places. Installez-vous confortablement dans votre siège Advance Confort et veuillez attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
En janvier, évadez-vous avec le nouveau SUV Citroën C3 Cross à partir de 199€ par mois seulement. Citroën.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2 500€, offre à particulier jusqu'au 31 janvier sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr. Pensez à covoiturer.
La Croix Bleue, vous connaissez ?
Oui. Je pense que je vais aller à Villers, justement.
Oui, il paraît que c'est très bien, parce que ça fonctionne un peu différemment. Mais là
après,
aussi, c'est...
j'ai une fois par mois, je crois, enfin, dans mon coin. Donc ça fait pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal.
Et puis, bah, il faut, je disais, s'entourer, mais s'entourer de vos frères, au moins.
Oh, c'est compliqué aussi avec la famille.
C'est compliqué parce que vous vivez la même chose. Vous avez vécu la même chose.
Oui.
Et donc, c'est pas facile. On est dans un. Oui, il faut parfois parler avec d'autres gens qui ont vécu d'autres choses que plutôt les personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous parce qu'on tourne un peu en rond du coup.
C'est ça. Mais là, après, j'ai rencontré des. Du coup, j'ai été. J'étais en clinique psychiatrique, pas loin de chez moi, et c'est vrai que j'ai rencontré des personnes adorables. Alors je sais que, en théorie, on n'est pas censé garder des liens avec.
Mais pourquoi ?
Avec des personnes.
Pourquoi ?
Parce que ça, enfin, selon les psychiatres, ça peut tirer vers le bas. Mais je sais que là, les personnes que j'ai rencontrées, elles vont plus me tirer vers le haut qu'autre chose.
Donc c'est bien. Et puis ça, c'est une forme d'entraide aussi. On n'a pas les mêmes raisons, même si on a la même pathologie, on n'a pas forcément les mêmes raisons. Donc c'est ce qui nous conduit à être ce qu'on est aujourd'hui. Et on n'a pas les mêmes rechutes et les mêmes moments de down. Donc c'est plutôt bien parce qu'on se comprend, parce que là, l'entourage, je le disais, c'est un rôle vraiment essentiel, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de culpabilité, vous n'avez pas besoin de ça, voilà. Vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse la morale, Laura. Vous savez très bien où vous en êtes, ce que vous avez besoin, c'est qu'on vous tende la main.
Le problème, c'est que j'ai perdu tous mes amis, grande partie de mes amis, à cause de ça, non, pas officiellement. Peut-être officieusement, je ne sais pas. Mais oui, j'ai perdu ma meilleure amie, mon meilleur ami.
Mais est-ce que vous vous dites aujourd'hui, est-ce que vous vous dites le matin, le lundi matin par exemple, comme on le fait par exemple pour un régime, est-ce que vous vous dites, allez, je commence, c'est fini, j'arrête de boire?
Oui, bah là c'est ce qui est prévu lundi matin justement. Vous faites bien de me...
De vous le rappeler. Ce qui serait bien, c'est...
Vous faites bien de me le dire, parce que j'ai un ami, justement, qui a des problèmes d'alcool aussi, et il m'a dit, faut que tu te fixes une date.
Oui, c'est ce qu'on fait tous pour le sucre, pour le régime, pour... et je comprends combien c'est compliqué. Hein. Mais,
pour plein de choses, oui. Mais, après, je sais que voilà, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les médicaments qu'il faut, etc. Donc,
c'est ça, vous avez un traitement qui vous convient. Vous avez dit que vous allez reprendre votre travail, c'est lundi que vous reprenez ?
Non, je reprends dans 15 jours.
Donc c'est ça, il faut que vous soyez...
Je me suis laissé 15 jours justement pour me sevrer.
Pour commencer. Vous faites un peu de sport? Vous essayez d'aller sortir, de marcher, de courir, de faire un peu de sport, quelque chose qui pourrait vous aider?
Quand je suis sobre, oui.
Et oui, bah oui.
Donc ça va...
Parce que c'est quand vous êtes sobre que ça va... Oui, c'est quand vous êtes sobre que ça va vous donner envie de faire attention à vous, de vous redonner un peu l'espoir, de retrouver les saveurs, la vie, les couleurs, les choses comme ça. Donc,
mais c'est ça qui est dingue, c'est que je sais très bien que quand je suis sobre, je suis vachement mieux. Mais ça m'empêche pas de... Ça m'empêche pas de consommer, en fait.
Mais quand vous consommez, c'est à quel moment ? C'est quand vous avez des idées noires ou c'est au contraire, quand vous êtes très bien, que vous vous dites « Oh, bon, je suis très bien, allez, un petit verre, pourquoi pas ?»
ça peut être les deux. Vraiment, ça peut être à n'importe quel moment et à n'importe quelle émotion, en fait. Que ce soit une émotion positive ou une émotion négative.
Et oui, mais on est fait que d'émotions, donc c'est compliqué. On est fait, on peut pas vivre sans émotions, on peut pas vivre sans émotions, donc c'est compliqué. Qu'est-ce que
Il faut pouvoir les accepter, quoi.
Qu'est-ce que ça procure chez vous, l'alcool ? Parce que chacun a des réactions différentes. Vous, ça vous met dans un état de vous planer un peu. C'est quoi ? Pourquoi l'alcool vous attire tant ? L'effet de l'alcool vous attire tant ?
C'est plus par j'oublie.
Ah.
J'oublie les problèmes quotidiens, les problèmes de la vie.
Et si vous vous échappez dans un livre, parce qu'on oublie quand on lit, si vous échappez au cinéma ou dans une série ou dans un film ou dans quelque chose ou un ami ou une amie avec qui vous pourriez parler, ça vous permet de vous échapper, vous oubliez ?
Oui, tout à fait, oui.
Et pourquoi vous essayez pas ça pour tenter de vous sevrer ? Pourquoi vous vous dites pas, au lieu de prendre une bière ou deux bières, je vais lire un livre que je voulais lire depuis longtemps, qu'on m'a conseillé, un roman captivant, une histoire captivante ou quelque chose, voilà, qui vous intéresse. Ça peut être l'histoire, l'aventure, le romantisme, enfin tout ce que vous voulez. Est-ce que vous vous dites pas, je vais plonger là-dedans et je vais avoir 3 heures d'oubli et ensuite je vais pouvoir dormir paisiblement ?
Oui. Mais ça, c'est ce que je fais quand je suis sobre.
Le
problème,
il faut le faire pour éviter
de. Pas d'objectif, quoi.
Mais l'objectif, c'est quand vous dites j'ai pas d'objectif, c'est quoi ? Vous avez un travail ? Vous avez l'objectif. Ah, il vous plaît pas votre travail ? Ben alors, il faut peut-être commencer par là. Est-ce que vous pourriez, avec le bagage que vous avez, l'intellect que vous avez, peut-être que vous pourriez. Trouver quelque chose qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous plairait ?
Enquêtrice.
C'est vrai ? Enquêtrice détective, vous voulez dire ? Ou
ouais,
enquêtrice de police ?
Peu, ouais.
Mais là, si vous dites
enquêtrice de police.
Déjà fonctionnaire, hein, vous dites que vous êtes déjà fonctionnaire. Donc c'est facile
après,
de passer des concours internes.
Il faut passer des concours. Et
Là,
je m'en sens pas capable intellectuellement. Je m'en sens pas capable.
Je pense que vous en êtes très capable. C'est parce que c'est vous qui vous dites que vous en êtes pas capable. Tant que vous l'avez pas essayé, vous savez pas que vous en êtes pas capable. C'est dans votre tête que vous en êtes incapable.
Oui, je pense que je me.
Vous dévalorisez parce que vous savez que vous avez ce problème aujourd'hui d'alcool qui vous perturbe, mais faut pas que ça vous perturbe au point de se dire je vais pas y arriver, je vais encore boire. Non, il faut essayer quand même dans la vie. Vous savez, moi quand j'ai un procès difficile, quand j'ai un dossier très difficile, je me dis dans ma tête, quand je vais au palais, je me dis au tribunal, je me dis le seul risque que je prends, c'est quoi ? C'est de gagner.
Parce que vous êtes avocat ?
Oui. Oui, je suis de formation avocat, oui. Mais vous voyez, regarde, on n'a pas qu'une vie dans une vie, je suis à votre micro là, hein, je suis au micro de repas et je parle avec vous.
Oui.
Parce que j'adore ce que je fais. Donc, je vous entends quand vous dites que vous avez une passion et que vous avez envie de faire autre chose. Mais il n'y a pas de raison de ne pas vous donner les moyens. Et vous avez les moyens. Pourquoi vous dites que vous ne les avez pas ? Vous passez votre temps à vous punir avant même et à vous condamner avant même d'avoir essayé.
C'est complètement ça.
Eh bien alors, il faut vous lancer. Vous risquez quoi ? Qu'est-ce que vous risquez ? Que ça ne marche pas ? Déjà, ça ne marche pas là. Donc, autant que vous essayez, qu'on ait une fête. Et peut-être que ça va vous donner un but. Peut-être que quand vous allez vous dormir après avoir révisé ce concours, vous allez être fatigué et vous aurez tout sauf envie de boire une bière ou deux bières ou 3 bières. Vous allez prendre du café pour tenir.
Je ne bois pas de café, c'est mon seul non-vif.
Mais c'est pas un vif de prendre du café.
Effectivement, un peu de trop, ça peut...
Oui, mais c'est moins grave que boire. Mais ce que je veux dire, pour votre santé, de toute façon, vous êtes jeune, vous avez tout devant vous, Laura.
Vous avez j'ai 40 ans bientôt.
Mais vous plaisantez.
Je suis jeune.
Mais enfin, ça va pas ou pas de dire ça ? La vie, parfois, commence à 40 ans, Laura. Combien de vies ont commencé ? Combien de vies amoureuses, de vies professionnelles ? Moi, je suis en train d'écrire un livre actuellement, un roman, qui est un roman vrai d'une fille qui a 39 ans, Elle a tout envoyé balader. Si je vous dis tout, elle était maman de trois enfants. Elle reste maman de trois enfants, évidemment. Mais maman de trois enfants, elle vivait dans un monde où elle s'occupait que de ses enfants, où elle était mise de côté parce qu'on estimait que elle représentait rien dans la société, alors que elle avait tous les atouts pour réussir dans la vie, mais elle avait choisi au départ d'être maman. Et puis un beau jour, elle s'est juste posée. Elle s'est dit, c'est quoi mon rêve? Mon rêve, c'était de devenir pédiatre. Eh bien, à 39 ans et demi, elle s'est inscrite à la faculté de Bobigny de médecine. Et Dieu sait, on le sait, combien la première année de médecine est difficile. Eh bien, je peux vous dire qu'elle n'avait pas fait de maths ni de physique pendant 20 ans, qu'elle avait toutes les raisons de rater cette première année. Et maintenant, on ne peut pas la repasser même deux fois. Elle est sortie majeure.
Elle a réussi.
Majeure, elle est sortie. Elle n'est pas réussie, elle est sortie première. Parce qu'elle l'a voulu, parce qu'elle l'a rêvé. Les rêves, ça porte, ça tient, ça vous habite, ça vous fait ça vous donne des pouvoirs inimaginables, les rêves.
Ça, vous allez me faire pleurer, parce qu'effectivement, j'ai un rêve là-dessus. Du coup, moi, je suis diplômée en droit public et j'aimerais beaucoup faire.
Mais vous vous rendez compte de ce diplôme que vous avez? Ah, vous voulez faire du droit... On était enquêtrice hein, tout à l'heure.
Oui, mais ça, c'est enquêtrice, c'est... Comment dire, c'est... Je sais que je pourrais pas le faire. Et puis, au final, mes convictions me poussent surtout à faire du droit de l'immigration.
Mais il faut le faire. Mais vous rendez compte, vous avez déjà un diplôme, vous avez déjà un pied et demi dans cela. Donc il vous reste plus qu'un.
Oui, il faut que je passe un DU, ouais.
Mais oui, mais alors c'est quoi avec ce que vous avez déjà fait?
C'est pas grand-chose au final.
Mais c'est pas grand-chose. Vous mettez une grande bouteille d'eau à côté de vous pour vous éclairer l'esprit, un peu de musique si vous aimez la musique, et puis vous travaillez. Vous vous remontez les manches parce que vous avez un objectif, un but, Laura. Et vous allez réussir. Je le sais que vous allez réussir. Il n'y a que vous qui ne le croyez pas. Et vous allez faire le bonheur de votre maman qui va peut-être vous regarder comme ça de loin et qui va sourire et qui va se dire « j'ai pas tout raté ». Parce que c'est ce qu'elle se dit, ça, votre maman. Elle se dit « j'ai raté une bonne partie de ma vie et là, quand je vois ma fille, j'ai raté aussi probablement quelque chose avec elle. » Et elle a de la peine.
Oui, c'est sûr que on se fait de la peine l'une et l'autre au final.
Mais oui. Alors, Laura, vous me rappelez, vous me dites si vous vous êtes inscrite, si vous avez commencé à travailler?
Ok, faut que j'aille sur Parcoursup maintenant.
Alors allez-y, et perdez pas de temps, allez-y avec votre... Ça va pas être bloqué à cette heure-ci, allez-y.
Très bien, écoutez, je vous remercie, c'est vraiment très gentil. Mais
non, Laura, c'est vous qui nous faites du bien en échangeant comme ça. Et vous nous rappelez pour nous dites, je dis à tout le monde de nous rappeler, mais il faut vraiment nous rappeler, d'accord?
Ok, très bien.
Je vous embrasse, Laura.
Merci à vous.
À bientôt, Laura. Au revoir.
Au revoir.
Surtout la main au bateau.
Bonsoir Océane.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Que puis-je faire pour vous? Dites-moi.
J'ai une gastroparésie.
La gastroparésie, alors c'est une pathologie, c'est la vidange de l'estomac qui se fait pas très bien, il me semble. C'est ça?
Oui.
Ou qui ne se fait pas, ou qui se fait lentement?
Il travaille plus.
Plus du tout?
Non.
Vous ne pouvez plus vous alimenter non plus, comme la fille de Cécile?
Je peux m'alimenter, mais le problème, c'est que je vomis tout. J'ai perdu 30 kilos en 3 mois. Donc, c'est un peu compliqué.
Vous avez quel âge, Océane?
22 ans.
Alors, vous avez, j'imagine, consulté?
Oui, j'ai consulté mon gastro-entérologue qui m'a prescrit des médicaments qui ne servent à rien. Parce que je l'ai vomi.
Ah oui, donc là, c'est très... Même le liquide, vous vomissez?
Oui.
Et si vous fragmentez vos repas, c'est-à-dire que vous vous alimentez comme quand une personne fait un bypass ou une sleeve en chirurgie bariatrique pour maigrir, c'est-à-dire qu'il va complètement fractionner ses repas tout au long de la journée pour ne pas être dénutri, c'est-à-dire manger des portions de bébé, par exemple. Si vous essayez ça...
On a déjà essayé de mixer ma nourriture en mangeant de petites quantités. Là, je suis nourrie par Fortimel, mais ça passe pas. Et je perds du poids à vue d'œil, donc voilà.
Est-ce qu'il y avait eu des problèmes de poids par ailleurs dans votre vie? Ou est-ce que le poids dit quelque chose de votre histoire?
Le poids dit quelque chose de mon histoire.
Ah, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu autour du poids dans votre famille, non?
Oui.
Oui. Avec votre maman?
Surtout, oui.
Oui, parce que souvent, quand le poids, ça se joue souvent avec les mamans. C'est-à-dire que... Oui, dites-nous.
J'ai pas eu beaucoup d'attention de ma maman ni de mon papa. Ils étaient beaucoup sévères jusqu'à me mettre dehors à mes 18 ans.
Ah oui. Ils vous ont mis dehors pour quelle raison?
Parce que j'avais 18 ans, que j'étais majeure et vaccinée, donc ils estimaient que j'allais vivre à la maison.
Ah, tout simplement. C'est-à-dire que vous êtes majeure, donc vous quittez la maison?
Oui.
Et vous allez où à 18 ans quand vous quittez la maison?
J'ai été dans des hôpitaux psychiatriques, surtout pour ma dépression et mon poids. Et je fais que ça depuis mes 18 ans.
Donc ils vous mettent dehors alors que vous faites une dépression?
Oui.
Vous avez des frères et sœurs, Océane?
Oui, j'ai 3 frères, 2 sœurs.
Est-ce que vous êtes proche de vos frères et sœurs?
De ma plus petite sœur, oui. Ma grande sœur, j'ai plus de nouvelles. Et mes 3 petits frères, je ne les vois plus.
Pour quelle raison, là aussi?
Parce que ils sont suivis par le SPJ, vu que c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, quand j'avais 13 ans, ma maman m'a montré comment se mutiler, donc je suis tombée dans la mutilation, etc.
Ah, votre maman vous a montré comment se mutiler, parce qu'elle se mutilait elle-même?
Elle l'a fait quelques fois, oui.
Et elle montre à ses enfants comment se mutiler, votre maman?
Oui.
Oui, donc vous avez des parents, pardonnez-moi, hein, mais avec ce que vous nous... Je me base sur ce que vous nous dites ce soir, hein, Océane, dysfonctionnel, oui. En fait.
Un peu comme ça, oui.
Oui. Donc ils se sont comportés comme ça aussi avec vos frères et sœurs?
Avec ma sœur de 21 ans, oui. Mais avec les autres, non.
Elle a des troubles aussi, votre sœur?
Elle fait des TS, tentatives de suicide aussi.
Oui. Vous aussi, vous en avez fait, Océane?
Oui. Parce qu'en fait, je n'ai pas eu d'attention de mes parents, donc c'était un peu compliqué pour moi de prendre ça sur moi.
Oui, je comprends. Et bien sûr, que je vous comprends, parce que vous avez des parents qui n'ont pas été visiblement de très bons parents.
Non, pas du tout.
Donc, vous voyez que tous ces mots hein, MAUX que vous avez dans votre corps, ce sont aussi tous les mots que vous n'avez pas pu dire ou qui n'ont pas été entendus, peut-être, Océane.
Oui.
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dites ou tenté de dire qui n'ont pas été entendues par vos parents?
Ceux qui ne comprennent pas ce que je vis et que pour l'instant je suis en pleine dépression et que j'aimerais bien m'en sortir.
Et oui. Et votre sœur, elle a vécu la même chose que vous?
Oui, à peu près.
Oui. Ce sont les garçons qui sortent indemnes, en fait, dans l'histoire, c'est ça?
Ma grande sœur de 24 ans et mes trois petits frères.
Oui. Je vais vous poser une question qui est un petit peu dure, Océane, mais est-ce que vous avez été désirée par vos parents ou vous êtes un accident?
Je crois que je suis un accident.
Oui. Bon, j'imagine que vous êtes suivie par des psychiatres.
Oui.
Oui. Hein. Vous avez travaillé aussi ce thème avec les psychiatres et avec les psys du rejet?
Oui. Mais c'est très compliqué.
Eh oui, je comprends. Puis vous êtes très jeune. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous êtes très jeune, Océane. Alors vous avez sans doute beaucoup souffert. Vraiment beaucoup souffert, parce que j'imagine que votre mère a dû en plus porter un regard un peu accusateur, non, sur vous par rapport au poids.
Oui.
Elle a été un peu humiliante?
Elle n'arrêtait pas de m'insulter de grosses vaches, de baleines, etc.
Oui, donc vous êtes passé de quelqu'un qui était peut-être en léger surpoids, parce que peut-être que votre mère vous a un peu comme ça jugé un peu à la va-vite, à quelqu'un qui aujourd'hui a perdu 30 kilos en 3 mois.
Oui.
Oui. Oui. Donc vous voyez bien que c'est en lien avec votre mère. Hein. Cette gastro-parisienne.
Que ma famille était toxique.
Voilà. Votre famille est complètement toxique. Effectivement. Et aujourd'hui, alors j'entends bien que vous avez une pathologie, hein, bien sûr. Mais vous voyez bien que l'enjeu, c'est vraiment le poids et le rapport à votre mère, et que quand vous, comme ça, vous maigrissez si vite et que vous vous mettez en danger, hein, de manière inconsciente évidemment, puisque c'est votre corps qui parle, d'une certaine manière, vous rentrez dans le regard de votre mère qui vous a toujours jugée trop grosse.
Oui. C'est... En fait, elle faisait 150 kilos, mais elle a fait la gastrique et depuis qu'elle a formé cri, elle n'arrête pas de m'acheter de grosses vaches, etc.
Oui. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec elle?
De temps en temps.
Elle vous manque ou pas, votre mère?
Quelque part, oui, mais quelque part, je me dis que c'est mieux sans elle.
Oui. Je crois que c'est mieux sans elle, Océane. Je sais que c'est très dur à entendre.
Je me dis quand même, elle m'a portée, elle m'a mise au monde, mais que peut-être qu'elle n'a pas fait exprès d'insulter de grosses vaches, ou peut-être qu'elle ne le voulait pas, mais au fond, je sais qu'elle l'a fait exprès.
Oui, vous essayez de lui trouver des excuses, parce que, en fait, peut-être pas l'adulte, hein, mais la petite fille à l'intérieur de vous, la petite Océane, elle a un besoin désespéré de sa maman.
Oui.
Oui, c'est normal. Donc vous essayez de trouver.
Je me dis qu'elle m'a commencé au monde.
Eh oui. Mais vous savez,
mais bon.
Toutes les mamans n'ont pas un instinct maternel.
Quand j'étais petite, elle était proche de moi et tout. C'était moi son bébé. Mais depuis qu'il y avait 3 petits frères, je suis mise à part. C'est depuis qu'il y a eu mon premier petit frère qu'elle a commencé à m'insulter.
Oui. Elle ne peut pas aimer tout le monde. Elle fait des choix, en fait. Elle a reporté son attention sur les petits et donc elle a oublié les aînés. C'est ça?
Oui.
Oui. Chris au 739-21 dit qu'elle aimerait bien échanger avec vous, vous qui avez une si jolie voix. Est-ce que vous accepteriez de parler avec elle? Est-ce que ça vous ferait du bien de parler avec Chris, qui est une auditrice de la Libre Antenne?
Oui.
Oui. Alors on va lui laisser, on va vous donner le contact de Chris et vous l'appellerez quand vous le souhaiterez, si vous le voulez, Océane.
D'accord.
Et on a Nathalie qui nous dit qu'il y a peut-être urgence et que vous devriez aller aux urgences pour votre perte de poids. Mais en même temps, vous êtes suivie par un gastro.
J'ai été hospitalisée plusieurs fois en gastro-entérologie, que de là je devais mettre une sonde pour m'alimenter.
Et oui.
Mais le problème, c'est que vu que j'étais hospitalisée au Chénois et à Mons, ils n'ont pas voulu me mettre la sonde qui pourrait m'alimenter, vu que je suis en sous-alimentation et que je dois être sondée normalement et être nourrie par poche. Mais les médecins n'acceptent pas ça. En fait, je suis placée dans un site psychiatrique où ils ne prennent pas le danger de mettre une sonde nasogastrique car il y a des tubulures, etc. à gérer et qu'ils ne savent pas faire ça. Enfin, qu'ils ne veulent pas.
Mais ils peuvent vous transférer peut-être pour votre santé, peut-être en gastro, non ? En service gastro ?
C'est ce qu'on essaie de faire.
Vous vous débrouillez toute seule dans la vie, Océane ?
J'ai un administrateur de biens et de la personne. Mais sinon, je me débrouille à faire mes affaires moi-même.
Oui, donc vous portez aussi la responsabilité de tout dans votre vie, en fait. Est-ce que vous êtes bien accompagnée ? Alors, on a entendu que vous avez un compagnon, on l'a entendu, là. Est-ce qu'il vous accompagne bien, ce compagnon ?
Oui, d'ailleurs, il voudrait vous poser quelques questions.
Avec plaisir. Passez-le-moi. Comment s'appelle-t-il ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Je m'appelle Donovan. Écoutez,
bonsoir,
moi, de
Donovan.
Base, je pensais... c'est mon anniversaire aujourd'hui.
Ah, bon anniversaire de la part de Repin. Joyeux anniversaire, Donovan.
Merci. En gros, aujourd'hui, je suis parti au Luxembourg avec mon ami. On était chercher du tabac. Ma copine, elle me sent en disant « Oui, aujourd'hui, j'ai passé la radio à 23h pour parler de ma situation et tout ça. »
Oui.
Et donc, du coup, moi, j'ai 2-3 questions à vous poser. Vous, votre travail, vous êtes psychologue, je pense, c'est ça hein ?
Oui, enfin, pas psychologue parce que je n'ai pas fait un cursus académique. Mais oui, je suis thérapeute dans la vie, tout à fait.
Ok, vous êtes thérapeute. Vous êtes en Belgique ?
Ah non, pas en Belgique, non, à Paris.
Ok, d'accord. Peut-être que je vous posais 3 questions, peut-être que vous n'avez pas à vous répondre sur tout, mais logiquement, quand quelqu'un a besoin de soins, quoi qu'il arrive, la santé, c'est la chose primordiale pour chaque être humain sur Terre.
Bien sûr, vous avez raison.
Du coup, quand quelqu'un a besoin de soins, que son psychiatre est heureux une sortie pour mettre une sonde, elle sait qu'on a besoin, et donc du coup, à cause de sa maladie, elle en a besoin, parce que sinon, ça passe autrement. Et en gros, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi un psychiatre autorise une sonde ? Un gastrologue, une fois que c'est fait, que la sonde gastrique a été mise en place, on téléphone au psychiatre pour dire voilà, elle est mise en place. Ça, pourquoi le psychiatre après dit oui, mais nous, chez nous, on ne fait pas les changements de capage et tout, il vous a expliqué. Et du coup, moi, je n'ai pas compris comment ça se fait que.
Parce que ce n'est pas les bons services. Ce n'est pas les bons services. En service psychiatrique, ils ne peuvent pas lui poser la sonde. Il faut qu'elle soit en gastro. Il faut qu'elle soit dans un service de gastro.
Ouais, mais si elle est d'abord dans un hôpital psychiatrique et qu'elle est dans un service psychiatrique, et moi j'ai déjà téléphoné à des autres hôpitaux par exemple, ils m'ont dit nous on fait les changements de cadavre, j'ai dit c'est un truc qu'on apprend de base dans les premières débuts des années.
Oui, mais enfin, ils ne prendront pas le risque en service psychiatrique d'aller lui poser une sonde gastrique, Donovan. Il faudrait qu'en fait Océane se fasse hospitaliser en service gastro par son gastro-entérologue.
Apparemment, de ce qu'on a compris, enfin, peut-être en Belgique, je ne sais pas, mais il ne peut pas faire ça comme ça, parce que c'est, apparemment, c'est son psychiatre qui doit décider. Et son psychiatre, en gros, lui, ce qu'il décide, c'est qu'ils ne font pas là-bas, du coup, au service ou escalier. Et donc, du coup, mais il a l'air comme ça, il continue à vomir, à manger, à vomir, et il ne veut pas s'occuper de son problème, de façon, parce que malheureusement, ils ne savent pas aller faire les changements de gavage ou quoi que ce soit. Mais alors, c'est quoi la solution à ce moment-là ?
La solution, c'est qu'elle aille dans un service en gastro-entérologie pour qu'il puisse la sonder et la nourrir. Donc, c'est vous êtes suivi en...
Ici, en Belgique, malheureusement, ils vont pas garder quelqu'un pour juste faire un changement de gavage.
Ah bon ? Ah, alors, est-ce que Océane, elle peut aller en France ? Vous êtes tout près de la frontière ?
Oui, elle pourrait aller en France éventuellement, mais... Sinon, il y a des hôpitaux psychiatriques. C'est juste que eux, son service-là, ils ne le font pas. Mais il y a des hôpitaux psychiatriques en Belgique parce qu'ils font des changements de sonde. Mais le problème, c'est qu'ils doivent discuter entre psychiatres. Le psychiatre n'est pas d'accord, ça ne va pas se passer. Donc, du coup, je ne sais pas si en France, il y a la même chose. Est-ce que vous avez l'ordre conseil des médecins ? Est-ce que ça existe ça chez vous ?
Ah, nous, on a bien sûr, on a le conseil de l'ordre, évidemment, qu'on a le conseil de l'ordre. Après, je ne travaille pas dans un milieu hospitalier, mais je ne pense pas qu'en service psychiatrique, ils iraient sonder une personne non plus. Hein. Ils changeraient de service, la personne.
Ma question, c'est est-ce que si moi j'en revenais à l'ordre des médecins, est-ce que c'est possible que ça va changer la situation ou comment
Je vous incite à, de toute façon, vous manifester, hein, évidemment, pour poser les questions et avoir de vraies réponses. Mais ça ne changera pas la situation, non. Ça, c'est sûr que non. Mais ce qui est certain, c'est que si Océane, ses jours sont en danger parce qu'elle maigrit et que le diagnostic a été posé et qu'il y a urgence à l'hospitaliser pour qu'elle soit nourrie par sonde gastrique, ils vont être dans l'obligation à un moment donné de le faire. Hein. Faut juste trouver le bon service.
En fait, le problème, c'est que c'est un psychologue et donc du coup,
normalement, il devrait y avoir comme un staff médical. C'est-à-dire que le psychologue ou le psychiatre devrait se mettre en lien avec le gastro. C'est ça qu'il faut que vous demandiez, que les deux médecins se parlent.
Ils ont déjà parlé. C'est ça le problème. Quand la mission est ensemble, ils ont déjà parlé, ils ont dit oui, mais non, on fait pas les choses comme ça. Oui, mais on fait comment? On va la retirer, mais c'est pas possible, ils sont disputés.
Ah oui, normal. C'est pas normal parce que Océane, en attendant, elle a besoin de soins. Donc il faut insister. Il faut insister pour qu'ils trouvent une solution. Parce que tranquille, en trois mois.
Malheureusement, moi je vous le dis, ça fait deux mois qu'elle n'a pas arrêté de vomir et tout. Elle a fait une tentative de suicide. Le jour, heureusement, j'étais là. Le jour là, je ne l'ai pas vu. Elle a pris des médicaments en chemin parce que là, en chemin, ça veut dire en mode je ne l'ai pas vu. Et donc, du coup, moi j'ai appelé l'ambulance, qu'elle vient et tout ça. Elle a dû se faire embarquer. Et voilà, mais en même temps, un être humain qui a déjà des soucis psychiatriques. Et puis en même temps, il ne veut pas faire ce qu'il faut pour pas se nourrir. Et que ça fait deux mois que tout ce qu'elle mange, malheureusement, le vomit. Je ne sais pas, il y a combien d'êtres humains qui pourraient être capables de supporter aussi longtemps. Hein.
C'est surtout que visiblement, Océane, ça fait très longtemps qu'elle vit des misères.
Exactement.
Voilà, ça fait longtemps qu'elle est une enfant martyre, Océane, un petit peu quand même. Hein, c'est une jeune femme qui a beaucoup de mérite. Parce que je pense pas que vous nous ayez tout raconté, Océane, mais j'ai la sensation que vous avez eu vraiment des parents maltraitants. Donc il faut pas lâcher Donovan, il faut que vous appeliez le psychiatre de nouveau et le gastro de nouveau en disant son état se dégrade, elle décline. Alors il faut trouver une solution maintenant pour qu'elle soit nourrie.
J'ai une autre question à vous poser. Chaque solution est bonne à prendre. Est-ce qu'elle peut avoir un autre psychiatre en dehors du coup de tout ça? Elle peut prendre un psychiatre.
Bien sûr.
Lui, il peut prendre une décision plus tranchante que les autres psychiatres. Où est-ce que je veux dire? Lui, s'il décide par exemple qu'elle pourrait aller par exemple dans tel hôpital parce que c'est un hôpital psychiatrique, parce qu'elle aurait besoin d'être suivie, et en même temps qu'ils font les changements de gavage et tout ça, est-ce que ce psychiatre-là qui connaît pas Océane, qui ne connaît pas sa vie, qui ne connaît rien, un nouveau psychiatre, est-ce qu'il peut prendre la décision? Est-ce que la décision de lui, même si les autres psychiatres sont en contre, est-ce que ça peut jouer quelque chose dans la balance? Moi, c'est une question que je vous posais aussi.
Moi, je crois que de toute façon, c'est toujours bien d'essayer un autre avis médical. Parce que s'il y a urgence, comme il semble y avoir urgence, elle pèse combien? Combien vous pesez, Océane, aujourd'hui?
Comme moi, j'ai connu, elle pesait 180 kilos, au moins, et là, elle fait 140 kilos.
D'accord. Donc, alors peut-être que la perte de poids, elle n'est pas en danger avec cette perte de poids. Vous voyez, c'est peut-être ça qu'ils évaluent, en fait.
Ouais, ok, la perte de poids n'est pas en danger, mais le fait que le corps n'a pas tous les nutriments nécessaires sur une journée.
C'est la prise de sang qui le dit. Donovan, c'est la prise de sang qui dit si elle est anémie ou pas. Il faut qu'elle fasse la prise de sang et en fonction des résultats de la prise de sang, ils vont choisir oui ou non de la sonder ou pas. Mais si effectivement il y a un surpoids comme celui-là, comme vous êtes en train d'évoquer, finalement pour eux, elle n'est pas en danger. Vous voyez, si elle avait fait encore une fois un bypass ou une sleeve, elle aurait perdu ce poids.
Mais ça, de toute façon, le médecin, le gastrologue lui a conseillé parce qu'il lui a dit on a fait tous les médicaments, tout ce qui était possible, nécessaire, tous les médicaments qui étaient possibles pour leur estomac, elle les a tous testés en Belgique. Mais il n'y a pas beaucoup de médicaments parce que c'est déjà une maladie rare. Et donc, du coup, bah, qui fait qu'elle a essayé tout ce qui était possible. Et, bon, du coup, il lui a dit que ce serait bien du coup, qu'on fasse le bypass, quoi, c'est couper l'estomac, il me semble que c'est ça, si je ne me trompe pas.
Voilà, c'est pourquoi je vous dis, là, ça change la donne. Quand vous nous livrez le tableau clinique un tout petit peu comme ça d'Océane ce soir sur la perte de poids, on parle quand même d'un fort surpoids. Donc pour eux, elle n'est pas en danger. Vous voyez, si elle avait fait une opération, une chirurgie bariatrique, elle aurait perdu ses 30 kilos en quelques mois. Donc pour eux, il n'y a pas danger. C'est ça qu'il faut que vous voyez. Il faut peut-être que vous reparliez du contexte, en fait. Pour eux, 30 kilos sur un corps qui fait 180 kilos, même si c'est rapide, c'est ce qui se serait passé en chirurgie bariatrique. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que le problème pour Océane aujourd'hui, je pense qu'il est plus psychologique. Il faut traiter cette famille toxique.
Il y a ça aussi, mais le problème, c'est qu'elle vomit, elle ne se nourrit pas. Enfin, c'est pas parce que, OK, elle perd du poids, mais en même temps, elle n'arrive pas à vomir.
Ouais. Peut-être ça vaut la peine de prendre un autre. De toute façon, moi, je suis toujours pour plusieurs avis médicaux. Hein, donc, oui, faites-le, bien sûr, faites-le. Et retracer tout le contexte, hein, bien sûr. Bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr qu'il faut le faire. En tout cas, c'est important que vous soyez à ses côtés, Donovan. On sent que vous êtes vraiment présent, dans une belle qualité de présence. Vous êtes là ?
Oui, j'essaie d'être là au maximum, mais... Je fais ce que je peux, quoi, avec mes moyens.
Oui, mais c'est bien, c'est important, parce que je pense qu'elle manque cruellement d'amour.
Bah, j'essaie de lui en donner un maximum.
Et oui.
Après, si du coup, elle sévit, on ne se voit pas forcément souvent, là, c'est une chance qu'elle soit chez moi, c'est parce que... En gros, elle s'est disputée avec une infirmière, là-bas, en gros, c'est ça, je n'ai pas à tout dire, mais juste une prise de tête... Et voilà, elle a été genre renvoyée pendant 5 jours. Je sais pas comment c'est possible d'être renvoyée dans la psychiatrique, mais bon. En Belgique, c'est comme ça. Elle s'est renvoyée pendant 5 jours. Elle a rendez-vous avec son psychiatre mercredi à 14h. Moi, d'ici là, la sonde, elle va être mise. On va prendre l'hôpital.
Oui.
Et moi, j'ai dit que tant que eux, s'ils savent pas ton changement de gavage, bah, tu restes chez moi jusqu'à temps que tu trouves une solution. Mais tu vas pas rester ainsi longtemps. Et parce qu'elle a le droit, là, c'est genre un peu faire se mettre une sonde et tout, et comme ça, elle va enfin déjà commencer à être nourrie, alléluia.
Oui.
Et enfin, moi, ça serait quelque chose de fait. Après, moi, c'est pour qu'elle retourne là-bas que disons, on retire la sonde, ben, moi, je lui dis, c'est rien, viens pas chez vous. De toute façon, elle a tout à fait ses droits, si elle veut se décharger de partir, elle a le droit.
Oui.
Quand elle est venue sur le plan plongé, faut le savoir, ça aussi.
Oui. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous les deux beaucoup de courage, hein, Donovan.
Ah, je voulais vous reparler, je pense.
D'accord. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous poser ces questions, de me poser ces questions sur l'antenne d'Europe 1.
Il n'y a pas de souci.
Allô ?
Oui, Océane. Je vous écoute.
Je suis en surpoids, mais je ne sais plus manger, en fait.
Oui, mais de toute façon, il y a un enjeu avec la nourriture, parce qu'entre votre mère... Moi, je crois que la racine du mal, c'est votre mère, hein, c'est vos parents. Et je pense que vous ne nous avez pas tout raconté à l'antenne, parce que peut-être y a-t-il eu aussi de la maltraitance physique, hein, en plus de psychologique. Non ?
Oui.
Voilà. Peut-être même des abus, non ?
Par mon oncle.
Voilà. Donc effectivement, tout ça doit être traité, évidemment, hein, en parallèle de traiter les troubles physiques qui ne sont qu'une traduction de vos bleus, de la psyché, hein, de votre tête.
Oui.
Je crois qu'il faut traiter les deux en parallèle. Et quand je parlais de surpoids, effectivement, on le sait, quand on a beaucoup de surpoids, ce qui est votre cas, et qu'on met l'anneau, par exemple, ou la sleeve, on perd ses 30 kilos très vite. Donc c'est pour ça, peut-être, qu'ils n'ont pas pris la mesure, les médecins, de ce que représente cette perte de poids pour vous. C'est pourquoi ils vous ont pas sondé, en fait. Vous voyez,
mais... En fait, il m'avait sondé, mais on me l'a retiré vu que le psychiatre ne voulait pas.
Et oui, parce que le psychiatre, il sait qu'il y a un autre problème qui est celui de votre famille toxique, et de la maltraitance, et de l'abus. Et il sait que c'est pas là qu'est le sujet, je pense. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment que vos médecins se mettent en staff, comme on dit, hein, se parlent entre eux, pour bien trouver le bon, le bon traitement. Pas traitement médicamenteux, mais le bon protocole pour que vous alliez de mieux en mieux.
Oui.
Et je pense que le psychiatre, il sait très bien que les troubles alimentaires ne viennent pas du tout de votre problématique de gastroparésie, mais que cette problématique, c'est votre famille toxique. Vous n'avez pas toujours vomi, Océane ?
Ça va faire plus ou moins 4-5 mois.
Oui, mais avant, vous ne vomissiez pas ?
Non.
Voilà. Donc, voyez, le corps est vraiment en train de s'exprimer. C'est pour ça que le psychiatre, il veut pas, pour le moment, il veut traiter d'abord le fond. Et d'une certaine manière, il a un petit peu raison. En tout cas, moi, ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est de ne pas vous décourager. Parce que, vous savez, quand on est jeune comme vous, et vous avez 22 ans, Océane, alors, effectivement, beaucoup, beaucoup de souffrance pour votre âge. Mais quand on suit vraiment bien sa thérapie, quand elle est utile, on avance vite. On avance vite. Oui. Et vous allez pouvoir vous en sortir vite. Il faut surveiller simplement que vous n'êtes pas carencé, que vous n'êtes pas anémié. Ça, c'est les prises de sang qui peuvent le dire. Hein, il y a un vrai suivi, évidemment, physique. Hein, ça, c'est sûr. Hein, il faut vraiment faire ce suivi. Mais il faut surtout que vous fassiez le suivi psychologique et que vous acceptiez de faire le deuil de la mère que vous n'aurez jamais.
Ça va être compliqué.
Et oui, je sais bien. Je sais bien que c'est compliqué. Mais aujourd'hui, vous voyez, tout ça se retourne contre vous. Parce que c'est clair. Parce que si vous retournez tout ça contre votre corps, contre votre tête, il faut faire ce deuil, Océane. Et vous avez Donovan à vos côtés, qui a l'air très impliqué.
Oui.
Donc vous voyez, vous pouvez vous appuyer sur votre petite sœur, et vous pouvez peut-être même mener ce combat toutes les deux. Puisqu'elle aussi, elle fait des tentatives de suicide. Elle aussi, elle a vécu ce que vous avez vécu en partie.
Oui.
Appuyez-vous sur votre petite sœur et appuyez-vous sur Donovan. Parce que vous êtes jeune. Vous pouvez vraiment vous en sortir. Ça va vite chez les jeunes, je vous assure. Si vous vous concentrez que sur vous, pendant quelques mois, voire peut-être une année, avec les bons praticiens, vous allez voir que vous allez voir les choses autrement.
D'accord.
D'accord ?
Oui.
Je vous embrasse.
Antenne sera de retour ce soir dès 22h30 et jusqu'à 1h. Vous pourrez vous confier auprès de Roland Pérez. Il suffit simplement de nous laisser un message avec vos coordonnées au 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21 pour passer dans la libre antenne. Vous pouvez même choisir le jour où vous souhaitez converser avec Roland Pérez ou Valérie Darmon d'ailleurs. Je le rappelle, Valérie, elle, vous la retrouvez du vendredi au dimanche. Allez, la suite du programme, c'est Thomas Hill pour une nouvelle diffusion de Culture Média. Ce mardi, il a reçu Raphaël Mesrahi pour parler de la 11e édition de la Nuit de la Déprime sur France 4. Et puis Lara Fabian était là aussi à l'occasion d'un nouveau single qui s'appelle « Je veux danser ». Alors la musique, justement, avec une chanson qui fera plaisir à la fois aux fans de Johnny Hallyday et de Michel Berger, c'est l'amour que j'attendais.
On a tous des rêves cachés, des pavés dans sa mémoire, et des valises de souvenirs qu'on veut poser quelque part.
Quand le soleil se couchait, j'avais des drôles d'idées noires, imagination bizarre et juste une envie de vivre.
C'est l'amour que j'attendais. Seul regard, un seul sourire, c'est l'amour que j'attendais. Pour briser ma solitude,
l'habitude.
Je savais que quelque part il m'attendait.
J'avais envie de me battre, mais sans savoir contre quoi.
Des fantômes à battre, et puis cette envie de vivre, c'est l'amour que j'attendais. Dans ce monde fier et hostile,
difficile.
Seul regard, un seul sourire, oui, c'est l'amour que j'attendais.
Pas ces passions provisoires, illusoires.
Je savais que quelque part il m'attendait.
C'est l'amour que j'attendais, figure sur la réédition de l'album Rock'n'Roll Attitude de Johnny Hallyday, qui avait été écrit et réalisé par Michel Berger. Voilà ce titre inédit que l'on a découvert il y a quelques semaines. Johnny Hallyday qui fera aussi l'objet d'un long métrage, puisqu'un biopic est en préparation. C'est le réalisateur de Bac Nord qui s'en charge, avec Raphaël Quenard dans le rôle titre, et la sortie du biopic est prévue pour 2027. Bienvenue à vous qui nous rejoignez peut-être à l'instant. On poursuit notre balade nocturne en compagnie de Thomas Hill, puisque c'est l'heure de Culture Média en nouvelle diffusion. Culture Média, c'est tous les matins de la semaine, de 10h à 11h30. Thomas Hill.
Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média. Oh, merci chers auditeurs d'être là, c'est vraiment trop sympa. C'est vrai, j'avais peur que vous veniez pas, on se retrouve un peu seul, mais là je vois que c'est bon, on est pratiquement complet. On va laisser les derniers s'installer, peut-être, voilà, prenez place et ça y est, je vais pouvoir dire bonjour à Anissa Dadi et Julien Pichenet.
Ah, bonjour Thomas.
Ça va, vous allez bien?
Oui, ça va très bien. Il y a de plus en plus de monde qui se branche,
c'est
à cette heure.
C'est impressionnant.
Ça, c'est la bonne nouvelle.
Est-ce que ça vous arrive, vous, vraiment, répondez-moi franchement, est-ce que ça vous arrive vraiment de déprimer parfois? d'avoir des coups de déprime.
Je suis pas, moi je pas ne déprime, déprime pas, mais je suis, je peux être mélancolique, mais je ne déprime pas.
Mélancolique. Ouais. Et non. Comme, non, vous non plus.
Non, parce qu'il y a toujours un repas qui arrive, qui approche, et moi ça me met en joie à chaque fois. Donc,
mais
ça me.
Il faut de la nourriture.
Il y a toujours une côte de porc.
Savoir qu'on va manger dans au moins 2 heures, 3 heures, moi ça me. Ah ouais. Non,
et est-ce que vous êtes du genre à écouter des chansons un peu tristes?
Ah oui. Ah oui. Passion. Ah bah bien sûr.
Par exemple un petit William Scheller, un petit truc comme ça. Ça, c'est un peu déprimant, ça.
On adore. Ah, ouais, on mais c'est
bien.
Beau, les
mais oui, ça dépend. Si on est amoureux, c'est pas déprimant. Si on vient de se faire plaquer, c'est plus dur, effectivement.
Celle-ci, elle marche bien aussi, je l'aime bien. Je suis venu
te dire. Alors là, vraiment, si on vient de se faire larguer, on est au fond de la gamelle. Ah, voilà. Ah, oui, là,
ou une autre de Berger que j'adore, c'est celle-ci.
J'ai écouté ça. Mais c'est beau.
Ah, seras-tu là?
Non, mais c'est quand même plus beau que les sardines. Les chansons déprimantes sont plus belles.
Évidemment, bien sûr. Oh, une belle sardine, quand même. Non, c'est triste, mais c'est beau. Et finalement, je crois que ça fait du bien. Et ben voilà, c'est un petit peu le concept de la nuit de la déprime qu'organise mon invité média du jour, Raphaël Mesrahi. Bonjour, Raphaël.
Bonjour, Thomas.
Et merci d'être là ce
matin. Merci de m'accueillir, c'est cool.
Alors, on vous a connu, bien sûr, dans vos interviews lunaires de Star. Ouais,
oui.
Mais depuis 11 ans maintenant, vous organisez aussi une nuit de la déprime, un grand concert, donc à la fois triste et drôle, qui sera diffusé ce soir sur France 4.
Ce qui est important, c'est que les gens confondent la déprime et la dépression. La dépression est une maladie, pas la déprime.
Oui, c'est
la déprime, c'est passager, c'est oui, machin. Voilà, c'est ça, exactement. Et comme.
Vous êtes sujet à la déprime?
Ah ben moi, tout m'ennuie, moi, donc c'est même pas ça. Il n'y a même pas de. Voilà, quoi.
Ouais.
Enfin, moi, j'aime les animaux et la musique.
Et bah voilà.
Et aider ceux qui en ont besoin. Le reste, je m'en fous, mais complètement. Les mecs me disent, ouais, t'as vu, lui? Non, je sais pas, j'ai rien vu.
Ah oui, l'actualité, tout ça.
Non, mais les mecs de gauche, de droite, de machin. Je ne sais même, je m'en fous complètement.
Ah ouais.
Qui fasse leur truc entre eux. Moi, je suis sur le terrain, j'interviens.
Ouais.
Là, Greg Guillotin, il est en train de sauver des chats à Aulnay-sous-Bois, sur le parking Paris Nord.
Ah bon?
Et parce qu'il y a 30 chats qui sont là-bas, on leur donne à manger, enfin, ils leur donnent à manger.
Ouais.
Et les mecs du centre commercial, on n'a rien à foutre, ils retirent les gamelles pendant que les chats sont en train de s'alimenter.
Ouais, ouais.
Donc c'est un scandale, donc il va faire des trapages. Et si vous pouvez aider centre Paris Nord, parce qu'on essaye de trapper ces chats,
ouais,
donc il faut y aller, quoi. On va au combat pour sauver qui on peut, d'ailleurs.
Et
on
est sur terre pour ça. Vous faites un peu partout en France, vous baladez partout.
Ah, mais moi, je fais 1200 km par semaine.
C'est incroyable.
En voiture. Moi, perso, j'ai pas de chauffeur. J'ai pas de sponsor.
Ouais.
Ma voiture, c'est moi. Les croquettes, c'est moi. Enfin, je fais 1200 bornes par semaine pour sauver des animaux. Ouais.
C'est beau.
Mais Raphaël, depuis, oui, 5-6 ans maintenant. Ouais, ouais.
On va parler donc de cette nuit de la déprime ce matin, puis après cette bonne déprime dans la deuxième partie, on aura besoin de se donner un petit peu d'espoir et de se dire.
Surtout pas. C'est la famille, c'est Lara, c'est ça?
Lara Fabian, bien sûr, qui nous rejoindra tout à l'heure. On l'adore, elle qui remplit en ce moment les plus grandes salles de France.
C'est Lara Fabian quand même, faut pas.
Mais vous savez qu'elle vient de faire son premier Bercy, son tout premier Bercy.
Oui, oui, je sais.
Ça a été un succès colossal.
Mais elle devait venir à la nuit de la déprime, mais elle démarrait sa tournée le lendemain, donc c'était impossible.
Un peu juste. Mais alors, vous avez du beau monde à votre nuit de la déprime, on va en parler.
Et en parlant de nuit de la déprime, je me suis fait quitter sur une chanson de Lara Fabian. On m'a offert le single de Tout. Tout est fini entre nous. Et donc, on m'a offert le disque pour que je comprenne ce qui était en train de se passer.
Jolie rupture.
Mais c'est une belle rupture, un très courageuse.
Donc, vous avez un lecteur CD. Là.
Lara Fabian qui sort un nouveau titre, figurez-vous, juste là, ce matin même. Et ben, on va le découvrir sur Europe 1 pour la première fois. Merci d'être avec nous chaque matin sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à
11h30. 10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill.
Et on va démarrer cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences, pour commencer.
Julien.
C'est important.
Ça vous intéresse, ça, les audiences?
Demain, on verra.
Qui était en tête hier soir, Julien?
Eh bien, c'était F1 qui décroche la première place avec la série Le Diplôme, portée par Clémentine Salarié.
Ah, ça marche toujours.
3 600 000 téléspectateurs.
Elle est super, Clémentine.
Elle est géniale.
M6 est arrivé deuxième avec les premiers portraits de l'amour et dans le pré. Ça cartonne aussi toujours, ça, qui ont réuni 2 640 000 fidèles. Tiens, cette année, ils seront 14 agriculteurs. à la recherche de l'amour. 4 femmes et 10 hommes, dont 2 frères. C'est la première fois depuis le lancement du programme que 2 frères participent à l'émission. France 2 qui lançait la saison 2 de Cœur Noir avec Nicolas Duvauchel ferme le podium avec 1 600 000. C'est près d'un million de téléspectateurs en moins par rapport au lancement de la première saison il y a 2 ans. Un mot aussi sur les apprentis champions ski. On en parlait hier avec Nelson Monfort et Philippe Candeloro. La nouvelle émission de télé-réalité lancée hier donc sur W9. Le premier numéro diffusé entre 17h45 et 18h30 a attiré 265 000 curieuses. Pas si mal.
Ben c'est bien.
Europe 1, le journal des médias.
Et puis France Télévisions a répondu aux déclarations du rapporteur UDR Charles Alloncle.
Ouais, le groupe France Télévisions a tenu à ajuster les propos de Charles Alloncle, le député qui pilote la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, a signalé qu'il attendait toujours que France Télévisions lui envoie tous les documents prioritaires demandés, comme les comptes du groupe. Par exemple, je soupçonne une insincérité financière, voire des comptes maquillés, a même commenté le député. France Télévisions affirme que la Cour des comptes n'a relevé aucune irrégularité de gestion sur l'ensemble de la période instruite, c'est-à-dire 2017-2024. Et concernant ces documents demandés par le rapporteur, France Télé affirme avoir déjà envoyé plus de 26 000 documents représentant plus d'un million, un million de pages.
Qu'il doit examiner donc seul.
Pas seul, parce qu'il est le seul à avoir accès pour l'instant à ces documents ultra sécurisés.
Et puis alors, toujours concernant cette commission d'enquête, son président, Jérémy Patrilétus, a vivement réagi à une chronique diffusée hier sur France Inter.
La chronique de Merwan Ben Lazar, censée être humoristique, qui est dans laquelle le chroniqueur, qui avait déjà été écarté de l'émission C'est à vous, sur France 5 il y a un an, après seulement une intervention, accrédite le fait de ne pas recevoir de personnalité du Rassemblement National sur l'antenne, en plus de les accuser de racistes. Écoutez cet extrait.
Et souvent, quand on donne la parole aux racistes, c'est sous couvert de « on reçoit tout le monde ici ». À quel moment c'est devenu une bonne chose de recevoir tout le monde ?
Réaction du député Jérémy Patrilétus. Votre appel à la censure politique et au cordon sanitaire médiatique est inacceptable sous couvert d'humour. La loi oblige l'ensemble des médias et a fortiori publics de respecter le pluralisme politique, rappelle-t-il, avant de préciser qu'il va proposer au rapporteur Charles Alloncle de convoquer le producteur de l'émission, le rédacteur en chef, etc., etc.
Et puis on revient au programme avec TF1. La chaîne a annoncé hier le retour d'une émission de télé-réalité.
Ça, c'est du lourd. Et puis, c'est pas jeune, ça. C'était les anges de la télé-réalité, ça.
Absolument. Exactement. Les anges de la télé-réalité, l'émission qui avait fait les beaux jours de la chaîne Énergie 12.
Je sais pas ce que c'est.
Oh, bah, vous pouvez imaginer. Hein,
c'est là que j'ai découvert Nabila. Parce que
j'ai interviewé Nabila. Donc elle vient de ça, alors.
C'est là qu'on avait découvert.
Ah oui, le gland. J'avais dit ça.
C'est l'émission qui avait fait les beaux jours d'Énergie 12. Avec effectivement Nabila, c'était au début des années 2012-2013. Eh bien, cette émission va renaître après 5 ans d'absence.
Mais ils ont bien
sur
fait.
TFX.
C'est super.
Chaîne du groupe TF1.
Et après, c'est pas vraiment TF1, c'est la Ligue 2, c'est le low cost.
Exactement.
C'est bien. Je suis déçu un peu.
D'après Télé Loisirs, le tournage de cette nouvelle saison se déroule en ce moment à Miami pour une diffusion prévue cette année.
À Miami quand même.
À Miami,
tout ce qui est clinquant, t'as pas l'œil. Il y a des guerres, ils
adorent. Il faut que ça claque.
Bien sûr.
Et allez, on termine avec la soirée des révélations pour les Césars 2026 qui s'est déroulée hier à Paris.
Eh oui, les Césars, ça approche, ce sera dans un mois, un petit peu plus d'un mois, le 27 février, en direct, en clair et en exclusivité sur Canal+. Et comme chaque année, le comité révélation de l'Académie des Césars a présélectionné 16 jeunes comédiens et 16 jeunes comédiennes pour venir participer à la soirée des révélations. Parmi eux, certains pourraient briguer dans un mois, donc, le César de la meilleure révélation. C'est le cas de Guillaume Marbeck. Il incarne avec brio le cinéaste Jean-Luc Godard dans un film remarqué de Richard Linklater, Nouvelle Vague, film sur les coulisses du tournage du film mythique à bout de souffle.
S'ils veulent la nouvelle vague, donnons-leur un raz-de-marée.
Guillaume Marbeck, qui était totalement